I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume très simplement toute l'actu tech, toutes les semaines, une petite heure, et vous êtes au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui est tellement important pour comprendre ce qui se passe dans le monde, parce que oui, la tech est un petit peu partout, et il est loin le temps où on parlait simplement des nouveautés, des derniers téléphones, même si on va quand même en parler encore aujourd'hui, c'est des choses qui nous plaisent toujours autant, mais il y a des choses également un petit peu plus sérieuses et importantes, et donc on va faire un petit mélange de jolis trucs de geek et de trucs importants de société, toujours dans la bonne humeur, comme on le fait dans cette émission. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gaëlle, qui est avec nous toutes les quelques semaines. Comment ça va, Gaëlle ?
Bonjour Patrick, écoute, très bien dans cet univers de fou dans lequel on vit.
Un petit peu. Écoute, je suis content que tu sois là avec nous. Et de l'autre côté, il y a également Siegfried, alias Captain Web. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans l'émission. Enfin, tu étais là pour le live qu'on avait fait au Paris Podcast Festival, mais...
Oui, effectivement, mais c'est vrai que ça doit faire un petit moment, c'est peut-être un an ou deux, je ne sais plus, peut-être plus.
Oui, je ne sais pas comment j'ai pu survivre sans toi pendant aussi longtemps. Merci de te joindre à nous.
Merci de m'inviter.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es notamment l'animateur et le maître du Captain Web, qui est un podcast, comment j'ai dit tout à l'heure, un podcast de fêtard, un podcast alcoolisé.
Ouais. Ouais, moins avec le temps, on est devenu vieux là, donc on boit moins qu'avant, faut bien le voir.
Je comprends. Bon, alors, on va parler de coronavirus et surtout de la manière dont la Chine essaye de contrôler l'information et la population. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a également des annonces du Mobile World Congress qui n'est plus le Mobile World Congress, mais pour lequel les constructeurs annoncent quand même des choses. Il y a des téléphones intéressants aussi, des petites infos sur ce que pourrait faire Apple et puis plein d'autres choses. Mais avant ça, je voudrais remercier évidemment les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous le savez, cette émission n'existe pas sans les gens qui soutiennent sur Patreon, et j'aimerais remercier très spécifiquement aujourd'hui Renaud Debray, Jérôme Nadir, Nicolas Morin, Toseba, Thomas P., Yann Lecor, Patrick, pas moi, hein, un autre Patrick, je suis pas le seul, et Laurent. Merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir l'émission sur Patreon. C'est grâce à vous que tous les autres peuvent écouter aussi. Donc, on se joint tous ensemble, on se tourne vers ce petit groupe formidable des Patriotes et on leur dit un grand merci avec une petite série d'applaudissements. On commence donc. Alors, il y a plein de choses à dire sur le coronavirus. Il y a des estimations sur l'impact que ça va avoir sur les productions de nos petits gadgets tech. Heureusement pour les joueurs comme moi, la production de consoles next-gen visiblement ne serait pas trop impactée. Donc, moi, je suis content. Mais il y a quand même des impacts sur les mobiles, les PC, etc. Il y a plein de conférences qui sont soit annulées, soit qui sont un petit peu désertées parce que les grandes sociétés essayent d'éviter... soit, comme on le disait la dernière fois, la panique, soit ils pêchent par excès de prudence, on va dire. Mais une des choses que j'ai retenues plus particulièrement, c'est ce formidable article de Vice, dans lequel la publication est David Gilbert, nous décrivent ce que fait la Chine pour essayer de contrôler un petit peu l'information d'une part, et surtout les personnes qui font entrer un autre type d'information ou qui critiquent le gouvernement encore plus. C'est sa réponse qui est de l'accord de tous, qui a été un petit peu trop lente à l'épidémie, puisque aujourd'hui, c'est devenu, d'après les épidémiologistes, on est sur une pandémie, on ne peut plus contenir la maladie. Donc, les conseils qu'ils donnent, c'est surtout, lavez-vous les mains, ne touchez pas vos visages et portez des masques N95, sauf qu'on les trouve nulle part et en plus, ils ne sont pas tous valides. Enfin bon, bref, lavez-vous les mains, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense. Mais donc, la pandémie est maintenant... inexorable, mais la Chine a été lente à réagir, puisque ça fait plusieurs semaines, même depuis fin décembre, je crois, qu'ils auraient pu en voir les signes, et ils essayent de contrôler les messages de la population. Et dans cet article, ils l'écrivent... Alors, il y a deux exemples que je vais vous citer et vous expliquer. D'une part, celui d'un homme qui était en voyage à San Francisco et qui avait beaucoup d'informations sur l'épidémie, bien sûr, et sur la maladie, qui a voulu les envoyer à sa famille. C'est un homme chinois qui a voulu les envoyer à sa famille en Chine. Et donc, il a utilisé WeChat, qui est une application de Tencent, société chinoise, qui a ses serveurs en Chine, pour envoyer des informations à sa famille, pour leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, il était inquiet, quoi. Et il a, après ça, peu de temps après, commencé à recevoir des messages un petit peu étranges de ses amis sur WeChat. Ses amis lui demandaient où il était exactement à San Francisco, dans quel hôtel il était, quel était son numéro de téléphone américain, etc. Alors, il a été un petit peu interloqué, il n'a pas vraiment donné réponse spécifique. Et après ça, les amis en question l'ont commencé à lui dire « Il faut que tu reviennes en Chine maintenant, absolument, tu ne peux pas rester aux États-Unis, reviens très très vite. » Et les quatre amis posaient les mêmes questions et l'ont encouragé à revenir en même temps. Alors, ce qui s'est certainement passé, c'est que des agents du gouvernement ont trouvé ces messages parce qu'ils ont une vue sur tous les serveurs et tous les services qui sont en Chine. Ils les ont trouvés. Ils sont allés voir les amis des groupes WeChat de cette personne. Ils sont allés physiquement chez eux puisqu'ils ont les adresses qui sont associées à tous les numéros de téléphone. Ils sont allés physiquement chez eux. Et leur ont
le crédit social aussi de chaque citoyen.
Voilà, ils ont suivi avec le système de crédit social. Enfin, ils ont toutes les informations nécessaires. Et ils leur ont donc indiqué et dit ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait demander à leur ami. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est un utilisateur chinois de Twitter qui utilise Twitter par VPN, bien sûr, puisque Twitter est interdit en Chine même, qui a répondu à un message critiquant le gouvernement chinois, en critiquant lui-même le gouvernement chinois. Et il a reçu peu de temps après une demande pour aller au tribunal, et il a dit qu'il devait avoir une demande écrite officielle qu'il n'a pas reçue. Mais peu de temps après, il y a des gens du gouvernement qui sont venus chez lui et qui lui ont montré une photo de son tweet en lui disant que c'était une attaque contre le Parti communiste. Et alors, bon, qui sait ce qui s'est passé après pour cette pauvre personne, mais... La manière dont ils ont obtenu ces informations, bien sûr, Twitter a dit, évidemment, nous ne collaborons pas avec le gouvernement chinois. Mais le truc, c'est que le gouvernement chinois a accès à tous les réseaux de communication sur son territoire. Donc, tous les fournisseurs d'accès ont des serveurs complètement ouverts au gouvernement chinois. Donc, il n'est pas très difficile, même avec un VPN, s'il n'est pas parfaitement... Enfin bon, je ne sais pas les détails de la manière dont la sécurité n'a pas été respectée par cette personne, mais ils ont eu très vite son adresse parce qu'ils ont accès à tous les serveurs sur le sol du pays. Donc, même s'ils n'ont pas accès aux données de Twitter directement, ils peuvent, par les données des fournisseurs d'accès et des sociétés de téléphone, avoir accès à ces informations-là, et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Donc, voilà pour un petit peu le petit résumé. C'est une petite image de comment ça fonctionne en Chine. On sait que ce n'est pas idéal pour la vie privée, mais c'est toujours intéressant d'avoir une illustration de ce fait. Siegfried, tu me disais que vous en aviez un petit peu parlé dans l'émission.
Alors, on a pas mal parlé. On a parlé du coronavirus, bien sûr. On n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est vrai qu'on en a aussi pas mal entendu parler. Entre autres, sur la radio, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage sur France Info, je crois, qui parlait des Ouïghours. Et des Ouïghours en France... sont donc cette minorité qui est pas mal attaquée par le gouvernement chinois.
Qui est persécutée par le gouvernement chinois, tout à fait.
Ouais, tout à fait
on en parle souvent dans l'émission, c'est une communauté musulmane de l'ouest de la Chine, qui est une minorité ethnique, qui est clairement persécutée par le gouvernement chinois. Ouais.
Oui, qui sont mis en camp de redressement, etc. Enfin bref, c'est une horreur, quoi. Et effectivement, il y avait le même truc qui était arrivé en France, savoir que des opposants chinois, donc, mais qui habitaient en France, avaient reçu des messages de leur famille. Exactement la même chose, quoi. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte du contrôle que peut avoir le gouvernement chinois sur absolument tout. Moi, ma belle famille est de Hong Kong, donc on connaît assez bien le problème, quoi. Pour l'instant, Hong Kong n'est pas encore, heureusement, pas encore soumis à ça, mais ça arrive petit à petit.
Ouais, ouais,
impressionnant de voir comment tous les aspects, n'importe quel aspect, même le plus petit, la moindre chose qui peut mettre en cause le gouvernement et qui peut mener à une révolte ou quoi que ce soit
est suivi
et contrôlé.
Ouais, donc voilà, un petit exposé sur la manière dont ça se passe en Chine.
Et vous aviez parlé des drones déjà, des drones qui, justement, pour le coronavirus ?
Ah non, ça, non, on n'a pas... j'en ai entendu parler un petit peu, mais vas-y.
Oui, non, bah, y a des drones, en fait, a priori, dans certaines, surtout dans les communautés qui sont les plus touchées, dans les villes de Wuhan, qui, a priori, surveillent la ville et qui surveillent les personnes qui ne portent pas de masque. On a même parlé, alors, je ne sais pas si c'est vrai, de certains drones qui pourraient mesurer la température à distance, que je trouve assez incroyable, et qui, de premier avec un haut-parleur en disant vous ne portez pas de masque, etc. C'est vraiment... une dystopie, on est en plein dedans là, c'est incroyable.
C'est intéressant parce qu'on a beaucoup, pas beaucoup, mais on a entendu ici et là certains affirmer que le contrôle que peut exercer le gouvernement chinois permet justement de mieux contrôler la diffusion de la maladie. Bon, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je n'ai pas l'impression que la Chine ait justement réussi à contrôler la diffusion de la maladie. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il contrôle les personnes et l'information certainement mieux, mais clairement, ça ne les a pas aidés à faire en sorte que l'épidémie ne se propage pas. Donc,
Ah oui, non. Mais ils ont sorti une application aussi, je ne sais pas si vous avez vu.
Ça, on en a parlé la semaine dernière.
Oui, d'accord, vous en avez parlé, alors on en reparlera.
Oui, pour le rappeler, c'est l'application qui nous permet de savoir si on est entré en contact avec une personne qui est malade, qui fonctionne justement grâce à leur immense réseau de surveillance qui permet d'identifier tout le monde. Et donc, l'application peut savoir grâce au réseau si nous, en nous reconnaissant, on a été dans les images qu'ils ont récupérées de toute la ville, de tous les trains, de tous les tout, si on a été à côté d'une autre personne qui est reconnue par reconnaissance faciale, etc., qui est tombée malade. Donc bon, effectivement, c'est un arsenal impressionnant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Gaëlle, on a un petit peu fait le tour.
Moi, ce que je trouve super intéressant quand même à ajouter, c'est les techniques du gouvernement chinois qui s'apparentent quand même à des techniques de hackers, puisqu'en fait, ils font tout simplement du phishing. Ça s'apparente à ça, en fait, en faisant un faux message qui s'apparente à être celui d'un ami, même si ça vient du téléphone réel, eux, ils ont la capacité à aller vraiment chez l'ami pour...
C'est ça, oui.
C'est du phishing. Donc, je trouve ça juste hallucinant qu'un gouvernement puisse utiliser ce genre de méthode. La Chine et pendant ce temps, surtout, ce qui est intéressant, c'est que les autres pays, eux, en revanche, subissent le contraire, c'est-à-dire ils subissent la désinformation qui vient de partout et ils savent pas contrôler. On voit ce qui se passe en Ukraine notamment. Je sais pas si vous avez vu justement sur
les
informations qui circulaient, qui a créé une émeute exactement, et le gouvernement ukrainien qui sait absolument pas du tout gérer et informer comme il faut et reprendre la main sur la communication.
Bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres, effectivement, mais ils n'ont pas réussi à endiguer la chose. C'était dans un village, donc c'était un bus, un avion de ressortissants ukrainiens qui revenaient de Chine, qui a été, ils étaient transportés dans un bus, et il y a eu un attroupement un petit peu belligérant, belliqueux, qui s'est réuni devant le bus et qui a cassé des vitres. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu de, c'était plus de peur que de mal, et personne n'était malade, et personne n'a été blessé, mais c'était en raison, effectivement, d'une série de fake news, de campagnes de désinformation qui a spécifiquement ciblé cet événement-là. Donc,
On entre dans une ère incroyable, je trouve, entre ceux qui font de la censure et qui communiquent et savent vraiment, ont le pouvoir sur tout le type de communication et toutes les données, et les autres qui, au contraire, ne savent pas du tout le gérer. Ouais. C'est très particulier.
Disons que
on parle pas mal d'infodémique aussi depuis ces derniers jours là, de une épidémie d'informations, qu'elles soient fausses ou vraies d'ailleurs, on est noyé dans ce flot et c'est très dur de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Comme on dit souvent, oui, c'est exactement le problème avec l'abondance d'informations. C'est tellement difficile qu'au final, on lève les bras au ciel et on dit je sais pas. Mais bon. Disons que dans l'ensemble de cette problématique, ce que je retiens, moi, c'est que l'épidémie n'est pas visiblement, alors on ne sait pas encore exactement, mais elle ne semble pas être particulièrement mortelle, on en a déjà parlé, mais plus que la grippe classique sans doute, mais ce n'est pas quelque chose qui a un taux de mortalité complètement affolant comme on a pu le voir avec d'autres épidémies. imaginons ce qui se passera si ça, ça se produit, si on a une maladie qui est encore plus grave. Bon, on ne sait pas. Le Mobile World Congress a lui aussi été affecté par le coronavirus et les annonces ont dû être faites sur le web sans la grande fête de, du salon lui-même. Alors il y a deux annonces que je retiens en particulier. D'une part, celle du nouveau téléphone de Sony qui clairement n'arrive pas à s'arrêter de faire des téléphones, le Xperia 1 2. Alors, c'est le Xperia 1 ou Xperia 1 2 en chiffres romains, ok. C'est un téléphone qui est pas trop mal, bien sûr, sous Android, avec un écran 4K HDR en format 21/9, donc cinéma large. Il a 8 Go de RAM, 400 mAh de batterie. C'est des détails que je donne généralement pas et on m'a fait la remarque dans l'épisode précédent en me disant « Mais pourquoi tu dis pas les détails de tout ?» Bon, alors voilà. Je pense que ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, mais ils sont là. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il a un port pour, enfin, un port pour écouteurs, un headphone jack. Et surtout...
À le retour des ports pour écouteurs, ça me fait plaisir, ça.
Ouais, je crois que ça fera plaisir à quelqu'un. Si vous en voulez un, bah, y a celui-là qui est disponible. Mais surtout, il a une excellente, un excellent appareil photo et une excellente caméra. Sony fait de très, très bons capteurs et ils ont appris de leurs appareils photo professionnels et ils ont ajouté des fonctionnalités là-dedans, dans cet appareil-là. Et notamment, l'un des trucs marrants, il y a plein, plein de choses de grande qualité, mais il fait du tracking des yeux avec de l'autofocus en temps réel sur les humains, les chats et les chiens. Donc, si vous voulez faire des photos, des vidéos en mouvement de vos animaux de compagnie, ils seront toujours nets grâce à cet appareil. Bon, il arrive bientôt, mais il coûte quand même 1 200 €. Donc, c'est vraiment du très haut de gamme. Je crois que ça en a refroidi quelques-uns là tout à coup quand j'ai dit ça. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, les annonces de Huawei, dont le plus important, alors, il y a des tablettes, des ordinateurs et un téléphone pliable, le Mate X. Qui est, c'est celui-là le pliable, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, il fait 8 pouces dépliés et 6,6 pouces pliés. Mais surtout, ce qui est intéressant, alors le prix, il arrive en 2020, il coûte 2 500 € toujours, donc les pliables, ça reste très cher. Mais surtout, il n'a pas les services Google. Et même Google a dit, si vous utilisez ces appareils, à partir de mai, même si vous sideloadez le Google Play Store, par exemple, ou d'autres applications Google, on ne peut pas vous garantir de la sécurité parce qu'ils ne sont plus dans le programme Android, donc on ne peut rien vérifier de ce qu'ils font. Donc, les conséquences réelles de la guerre entre Huawei et, entre Huawei et le président Trump, on peut dire ça comme ça, commencent vraiment à se faire sentir avec ce premier appareil qui a vraiment, qui est haut de gamme vendu en Europe, mais qui n'a pas les services Google. Donc voilà sur ces deux appareils. C'est des choses qui sont pas incroyables mais qui m'ont paru intéressantes.
Il y a tellement de trucs qui sortent sur les téléphones que je t'avoue que je suis plus trop depuis un petit moment maintenant.
C'est pour ça que je dis ouais, on parle plus autant de téléphones. Encore que, attends, ça va arriver quand on va parler d'Apple. Il y a Samsung aussi, mais il y en a quelques-uns dont on parle. Mais même ce téléphone Sony, qui est formidable, franchement, qui est vraiment d'immense qualité. Enfin, il a des choses qui sont techniquement assez incroyables. Eh ben, il nous laisse un petit peu froid, je pense. Et puis, je parle même pas de Gaël qui est sur son iPhone SE.
Mais attends, le 2 arrive.
Justement, oui. On va en parler. Mais bon, donc, rien d'autre à ajouter sur Huawei et sur Sony ?
C'est beaucoup trop cher.
Ouais, oui, ouais. Je crois qu'on est un petit peu dans cette dynamique. Mais si vous voulez un port jack, voilà,
oui,
vous en avez un.
Mais j'en ai un sur mon dernier Xiaomi. Ils sont revenus aussi. Ils ont remis un port jack dessus. Je ne sais pas si c'est le cas partout sur tous les constructeurs, mais en tout cas, ça revient.
Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns ici et là, mais ils ont bien trop envie de vous vendre leur AirPod et AirPod-like pour mettre les port jack partout.
Mais moi, j'ai un port jack sur mon iPhone SE. Je me demande s'il va rester sur le SE2.
Ah, c'est une très bonne question. Moi, je pense que non. On peut prendre les paris parce que, justement, ils vendent un téléphone entre guillemets pas cher pour Apple avec ses séries SE. Mais après, ils peuvent vous encourager à acheter des accessoires supplémentaires. Et s'il n'y a pas de port jack, peut-être que les AirPods seront un petit peu plus attrayants. Encore qu'ils sont tellement sexy aujourd'hui, ils sont tellement à la mode, je me demande si les gens qui ont un iPhone bon marché se disent pas, bon, bah, je mets 100 euros de plus ou un petit peu plus, et puis je peux avoir un AirPod aussi, et je serai comme les gens cool.
Mais est-ce qu'il coûte combien? Il coûte pas plus cher que le téléphone, du coup.
Oula, non, quand on parle de téléphone pas cher chez Apple, on parle de 400 $ ou 500 euros en Europe, tu vois. Donc,
je suis trop sur Android, j'ai plus l'habitude de ces prix-là.
C'est exactement. Bah justement, alors parlons un petit peu d'Apple. Il semblerait que ce fameux iPhone SE 2 soit toujours dans les tuyaux et sur les rails malgré le coronavirus. Donc ça devrait arriver a priori pour une conférence en mars, peut-être le 31 mars, donc on est à un mois environ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cet iPhone SE, le premier du nom, c'est un appareil qui est vraiment intéressant, c'est leur appareil le moins cher, qui est, on va dire, un milieu de gamme, qui est autour de 400 ou 500 euros, généralement. Enfin, le premier était dans ces eaux-là. Et ils le font avec les derniers processeurs et des écrans de bonne qualité. Enfin, c'est vraiment un bon téléphone, surtout juste au moment de la sortie. Il est possible qu'ils aient, comme pour le précédent, le tout dernier processeur, donc qu'il puisse durer assez longtemps. Il était encore en vente il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est un truc qu'ils produisent sur très longtemps. Et donc, c'est comme ça qu'ils réduisent un petit peu les coûts et qu'ils peuvent garder leurs marges exorbitantes. Donc, il devrait être annoncé fin mars avec possiblement un nouvel iPad Pro qui aurait de nouvelles caméras, mais aussi certaines rumeurs, enfin certains leaks dont on ne sait pas, on n'est pas certain de l'authenticité, parlent d'une nouvelle Apple TV, un nouvel iPod Touch et des AirPods Pro Lite, ce qui est un petit peu bizarre parce que les AirPods Pro sont un petit peu plus chers que les AirPods classiques et je ne suis pas convaincu qu'il y ait une place entre les deux au niveau prix. Mais bon, peut-être que ça sera des AirPods Pro sans diminution active de bruit, ce qui est bizarre parce que c'est l'un des attraits principaux des AirPods Pro. Bref, ils en vendent tellement par paquet entier et par palette entière qu'ils essayent de faire d'autres modèles également et de couvrir tout le monde. Mais encore plus intéressant que ça, il y a deux rumeurs. Alors là, pour le coup, c'est des vraies choses différentes et intéressantes. Mais même si vous pourrez revenir sur ces annonces-là et ce que vous en pensez, mais Min-Chi Kuo, qui est l'un des analystes spécialisés sur Apple, qui a généralement de très bonnes informations, dit que le fameux Mac basé sur processeur ARM, devrait arriver dans les prochains 12 à 18 mois. Ce qui est une grosse, grosse information, parce que ça fait un moment qu'on entend parler du fait que, oui, les processeurs d'iPhone sont tellement puissants qu'ils pourraient faire tourner un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Et là, ça serait la réalisation de cette sorte de prophétie. Et on imaginait que ça allait arriver. Là, on a une date qui est concrète, dans les 12 à 18 prochains mois. Ça serait le même processeur que celui du prochain iPhone. Donc vraiment, exactement le même processeur, peut-être un petit peu retravaillé, mais le même processeur conçu par Apple, qui du coup commencerait à ne plus devoir dépendre d'Intel pour ses processeurs d'ordinateurs au moins portables, peut-être à terme même d'autres choses. Et c'est une transition qui est importante parce que quand les programmes d'un ordinateur sont programmés pour un processeur spécifique, en l'occurrence, c'est compilé, pas programmé, mais ils sont compilés pour les processeurs Intel, des processeurs x86. Et
il va falloir tout racheter.
Et il va falloir, alors peut-être pas tout racheter, mais pour les développeurs, il va falloir tout recompiler et tout adapter, si jamais c'est le cas. Donc il va y avoir une période de transition où les programmes devront tourner sur les deux systèmes. C'est une grosse, grosse opération. La dernière fois qu'ils ont fait ça chez Apple, c'était pour le passage du PowerPC au processeur Intel, justement. C'était il y a, je sais pas, 10-15 ans, quelque chose comme ça.
Oui. C'était pas passé très bien, en fait.
Ah bah c'est toujours compliqué, hein, bien sûr. Ouais. C'est toujours très, très compliqué, ces transitions, parce qu'il y a des programmes qui ne marchent plus, qui sont pas mis à jour. Enfin, c'est toujours compliqué, mais c'est le genre de changement qu'il faut parfois faire malgré les difficultés pour s'assurer l'avenir. Et c'est vrai qu'Intel a eu des problèmes, on en a parlé à plusieurs reprises. Et le gros avantage des processeurs ARM est notamment l'autonomie. Ils consomment assez peu d'énergie. Et en plus, les processus de gravure sont beaucoup plus fins. On arrive à du 5 nanomètres sur les processeurs ARM, alors qu'Intel a du mal à descendre au-dessous des 10. Et ça, quand on réduit la taille des circuits et des transistors, ça consomme moins d'électricité. C'est pour ça que c'est important d'aller encore plus fin et toujours plus fin jusqu'aux limites de la physique. Mais ce qui est important à retenir également, c'est que si ça arrive dans les 12 à 18 prochains mois, ça veut dire que la prochaine conférence WWDC des développeurs Apple sera la dernière avant cette transition. Elle a lieu en juin et donc on devrait entendre parler de cette transition et ils devraient donner des outils aux développeurs pour commencer la transition lors de cette WWDC. Et enfin, dernière news également importante et qui vient d'un autre journaliste très informé du monde Apple, Mark Gurman de Bloomberg, qui dit que Apple est en train de réfléchir à la possibilité de laisser les utilisateurs d'iOS choisir quelle application par défaut ils utiliseraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut envoyer un mail, on tape sur une adresse mail et ça lance automatiquement le client mail d'Apple. Eh bien, si on pouvait choisir les applications par défaut, on pourrait décider qu'on veut utiliser Outlook ou une autre application, ou un Proton Mail, ou Dieu sait quoi. Et c'est une chose qui est évidemment déjà est possible sur Android depuis très 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 longtemps, mais Apple contrôle beaucoup plus l'expérience et ça serait encore un petit geste supplémentaire à faire pour laisser plus de contrôle aux utilisateurs. C'est encore plus important parce que, et c'est pas très comme Apple de faire ça, mais ça pourrait être crédible parce que c'est une pratique qui pourrait être considérée comme anti-compétitive, de ne pas laisser d'autres applications tourner par défaut sur l'OS. Et comme aujourd'hui, les gouvernements s'intéressent de plus en plus, aux pratiques anti-compétitives des géants de la tech, ça me semble pas impossible qu'ils fassent un geste dans ce sens-là, surtout qu'ils ont énormément d'applications, de plus en plus, qui couvrent tous les domaines de la tech. Il fut une époque où c'était juste mail et navigateurs. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a les cartes, il y a les applications de musique, etc. Donc voilà, ça serait un petit geste dans ce sens. Ça fait beaucoup de choses dont j'ai parlé. Je ne sais pas si Gaël, toi, je sais que c'est le SE2 qui t'intéresse le plus, mais champ libre, qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ça?
À part l'iPhone SE2, écoute.
Pas grand-chose, ok.
Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter sur tout ce que tu viens de dire. Je trouve ça effectivement intéressant et je suis surtout étonnée que ça soit pas venu avant que Apple ouvre aux autres applications leur.
Le système, oui.
C'est ce qu'on a obligé de faire Microsoft, Google. Il était temps que Apple le fasse. C'est surtout ce point-là que je retiens.
C'est un gros changement.
Aller
ça.
Dans le bon sens.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se rendre compte à quel point c'est important, mais c'est exactement le même problème qu'avec Microsoft et Google. Alors, on peut arguer, il y a une grosse discussion sur est-ce que Apple a un monopole ou pas, parce que sur les téléphones mobiles, ils n'ont pas de monopole, évidemment, puisque Android est beaucoup plus, une bien plus grosse part de marché dans tous les pays du monde. Mais sur iOS, ils ont le monopole puisqu'il n'y a qu'eux qui font des appareils sous iOS. Donc, ils sont maîtres en leur maison. Et donc, sur iOS, ils ont un contrôle total de... Pas total, mais un contrôle extrêmement important de quelles applications sont utilisées par défaut et donc quelles applications sont les plus utilisées. Donc, ouais. C'est surtout
quand
le cas
quand tu es dans l'écosystème Apple, c'est quand même chaud pour en sortir, quoi, parce que tu as toutes les données qui sortent. Je ne sais pas, j'ai jamais switché d'un à l'autre. Mais ça me semble compliqué quand tu es habitué à l'écosystème Apple de sortir de là, quoi.
Bah, c'est difficile. Disons qu'on peut utiliser un iPhone avec des services qui ne sont pas uniquement ceux d'Apple, mais c'est un peu plus compliqué et c'est jamais parfait. On est toujours un petit peu retiré du côté d'Apple. Alors, moi, je dirais que c'est parce qu'Apple essaye de faire un truc aussi simple que possible et donc garde toujours une main sur le volant de la voiture que vous conduisez. Et donc, ça vous évite de faire des dérapages trop violents, on va dire. Mais oui, ça a des conséquences comme celle-là qui sont difficiles pour la concurrence. Donc voilà pour Apple et les infos à venir. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont quand même très importantes pour la direction que prennent ces grandes sociétés dans les années à venir. À voir ce que ça donnera.
Apple est à combien de pourcentage de parts de marché sur le téléphone portable ?
Alors, je crois qu'on est autour de 20%.
20%, j'aurais pensé que c'était un petit peu moins.
Oui, je crois. Alors, ça vient, mais je crois qu'on est autour de 20%, quelque chose comme ça.
Donc, ce n'est pas le même monopole, mais c'est quand même énorme en termes de part de marché, surtout.
Complètement. Oui, oui. Alors ça, c'est certain que au niveau des sous, ça va bien pour eux parce qu'ils ont le haut du marché. Ils ont les téléphones chers sur lesquels la marge est possible.
Haut de gamme.
Exactement. Mais la grande difficulté dans cette discussion, c'est de savoir est-ce qu'ils ont effectivement une part de marché importante ou pas. Parce qu'ils ont 20%, on a toujours la possibilité d'aller sur Android. Il y a une compétition saine, on va dire, dans le marché des téléphones mobiles vis-à-vis d'Apple. S'il y a quelqu'un qui est vraiment dominant, on pourrait dire que c'est Android plutôt. Et même chez Android, il est très ouvert. N'importe qui peut faire un téléphone Android et choisir de ne pas mettre les applications Google. Mais là encore, ça pose des questions sur la dominance de Google. Mais
c'est vraiment un duopole, en fait. Il n'y a plus... Moi, je me rappelle de l'époque où il y avait encore Symbian et tout. Ça remonte à très, très loin, quoi, à part...
Ah, complètement.
À part E2, complètement, il n'y a plus rien.
Complètement. Il y en avait quelques-uns qui ont essayé, notamment Windows Mobile. Quelques-uns. Firefox OS. Ça s'est très mal passé pour eux. Donc oui, ils sont certainement tous les deux... Et je pense qu'il est très important de regarder de près ces questions de concurrence et de permettre à la concurrence d'exister. Parce que si la concurrence n'est pas saine, ça pose évidemment des soucis sur la santé du marché dans son ensemble. Donc.
Et Huawei n'avait pas un projet de faire son propre système d'exploitation justement suite aux problèmes qu'ils ont avec les US ?
Tout à fait, c'était juste
reprendre la base d'Android en open source et partir sur une fork différente.
C'est ça, c'est la base d'Android, mais adaptée à leur sauce, mais ça serait leur propre OS. Hein. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, Amazon, plein d'autres l'ont fait, puisqu'Android est open source. Mais c'est encore en cours pendant qu'ils sont en train d'essayer de négocier avec les États-Unis. Mais ils sont prêts à... d'ailleurs, j'imagine que leurs tablettes dont on a parlé, elles sont sous ce système. Je vous avoue que je ne suis pas complètement sûr, mais ça ne me surprendrait pas. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Donc voilà, pour tous ces sujets, on va faire une toute petite pause et je vais vous parler des résultats du sondage qu'on a lancé il y a quelques semaines de ça. Je vais vous commenter un petit peu tout ça. Je commenterai beaucoup plus longuement en fin d'émission parce qu'il y a eu sur les parties ouvertes du sondage énormément de réponses et je vais passer un petit peu de temps à en parler plus longuement. J'ai tout lu. Je l'ai imprimé dans un PDF, hein, mais il y a 90 pages du sondage dont, et c'est écrit tout petit, et il y a des centaines et des centaines de réponses. J'ai tout compilé et lu. J'ai arrêté le sondage à 1337 réponses, très précisément. Et donc...
Un bon chiffre.
Ouais, ça me paraît être un bon chiffre. Et donc, sur les données démographiques, sur ceux qui ont répondu, c'est assez classique. Hein. On a quand même la plupart des gens qui écoutent sont des hommes. On est à quelque chose comme 90-95% d'hommes et essentiellement de 25 à 45 ans. Quelque chose comme ça. Donc, des gens mûrs, d'un certain âge, une grande sagesse, je dirais. Il y a quelques-uns
en dehors de certains. Je pense qu'on a les mêmes auditeurs, en fait. J'ai à peu près les mêmes stats de ce que je vois sur...
C'est ça. Ouais. On a donc principalement 25 à 45 ans, c'est ça. Quelques-uns plus jeunes, quelques-uns plus âgés, mais essentiellement c'est ça. Donc sur ces questions-là, il n'y a pas de choses super intéressantes, mais sur les autres réponses, alors attendez, je vais sortir mes notes. Où écoutez-vous ? Où écoutez-vous ? J'ai eu des réponses vraiment surprenantes. Bon, disons que l'essentiel des gens écoutent dans les transports, dans la voiture, etc. Mais certains me disent, bon, en promenant le chien, ok, très bien, pendant qu'on se balade. Certains me disent qu'ils écoutent en prenant la douche. Et il n'y a pas eu qu'une seule personne qui dit en prenant la douche. Plusieurs personnes me disent qu'ils m'écoutent ou qu'elles m'écoutent en prenant la douche. Alors si aujourd'hui...
Ils prennent des longues douches alors. Hein,
ouais, écoute, ma voix doit vraiment les faire s'endormir sous l'eau chaude. Parce que, donc si c'est votre cas en ce moment, j'espère que votre douche se passe très bien. Et encore plus surprenant, il y a encore une fois, pas mal de gens qui me disent qu'ils écoutent pour s'endormir. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire sur ma voix et la qualité de l'émission. mais donc, si vous êtes en train de vous endormir, vous aussi, je vais commencer à parler de plus en plus doucement. Je disais que je devrais faire un podcast d'ASMR. Peut-être que, oui, exactement, je devrais faire ça. Si vous écoutez, alors peut-être pas sous votre douche parce que ça serait bizarre, mais pour vous endormir, envoyez-moi des photos sur Instagram en faisant @notepatrick. Je veux voir ce que ça donne quand vous endormissez avec mon émission. Je les repasserai en story si c'est des photos acceptables, on va dire. Mais envoyez-moi ça, ça serait vraiment marrant, je pense, avec genre un hashtag in bed with not Patrick ou un truc comme ça. Non, @notepatrick en tag. Je voudrais voir ça et je les restorifierai. Mais des gens qui écoutent pour s'endormir, je savais que ça se faisait, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait des auditeurs de l'émission qui le faisaient. Sur les questions des qualités importantes de l'émission, j'ai mal fait les questions et j'avais trop peu de réponses pour trop de réponses possibles à donner, donc ça s'est vachement aplati. Mais en gros, les gens disent que, je résume, si elle n'existait pas l'émission, il faudrait l'inventer. Donc c'est une émission qui vous paraît importante. Bon, c'est les gens qui vont répondre au sondage en même temps, hein, donc c'est des questions un petit peu biaisées. Mais il faudrait l'inventer, donc merci, je pense que ça vous plaît. Les gens qui soutiennent l'émission, pourquoi ils soutiennent, les réponses principales c'était enfin dans les commentaires, tout travail mérite salaire, donc vous comprenez que c'est du travail, merci beaucoup, on se rend compte de tout le boulot abattu aussi, la qualité du contenu, éditorial, analyse, humour, c'est des vrais commentaires, hein, c'est pas moi qui les invente, humour, je sais pas mais ok, analyse peut-être, permettre à Patrick de racheter Activision Blizzard, on n'y est pas encore, il va falloir monter un petit peu le Patreon, on explique et décrypte sans jamais dénigrer ni rabaisser, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'explique aux gens et on n'est pas élitiste, technophile, geek. On essaye vraiment d'amener les gens pour qu'ils comprennent les sujets. Donc le fait que les auditeurs et les gens qui répondent au sondage le voient et me reflètent ce miroir, ça m'a fait plaisir. Et puis, dernière réponse, pourquoi soutenez-vous la culpabilité? Écoutez, ça me paraît être une motivation aussi bonne qu'une autre. Pourquoi vous ne soutenez pas? Alors, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Évidemment, ça je le comprends tout à fait. Il y a des gens qui disent très honnêtement, je suis radin. Bah écoutez, ok, je suis radin, pourquoi pas. D'autres personnes qui disent, je ne suis pas devant mon PC quand j'y pense. Alors écoutez, la prochaine fois que vous mettez vos clés, vous videz vos poches en rentrant chez vous, je vais faire un moyen mémotechnique, la prochaine fois que vous videz vos poches en rentrant chez vous, vous posez les clés dans le petit bol à l'entrée, vous dites, ah, faut que je soutienne Patrick. Voilà, c'est le petit truc. Les clés, cling, Patrick. Alors, on répète après moi. Cling, Patrick. Cling, Patrick. Voilà.
Arrête, et donc, tu réveilles les gens qui s'endorment là.
Ah merde, pardon. Et enfin, d'autres personnes qui disent « Je le fais bientôt ». Bah merci à vous si vous le faites bientôt, c'est très très gentil. J'apprécie énormément. Je ferai plus de commentaires. En fait, sur la partie questions ouvertes à la fin, il y a eu énormément de commentaires, des centaines comme je le disais. Je vais prendre un petit moment en fin d'émission, je l'adosserai à l'émission pour vous donner mes commentaires là-dessus. Il y a eu des remarques positives et négatives. Je vais prendre le temps de répondre à celles qui m'ont paru le plus intéressantes, mais ça va prendre un petit moment. Là, on a déjà fait très long, donc je le mettrai en fin d'émission si ça vous intéresse. Allez écouter ça. Et si vous pensez à Clean Patrick ou Je le fais bientôt, patreon.com/rdvtech, comme on le dit souvent, l'émission n'existe pas si vous ne la soutenez pas. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font et qui font comme à la vieille époque où on payait nos magazines. Et bien là, vous pouvez payer pour soutenir et pour que l'émission existe. patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission.
Et c'est un site qui est disponible sur mobile pour ceux qui ne sont pas devant leur PC. Mais je dis ça, je dis rien.
Tout à fait, ça marche très bien sur mobile. Ça prend 2 minutes, donc même pas besoin d'attendre Cling Patrick. On peut directement le faire quand on est dans les transports en commun, par exemple. Tout de suite, là, vous pourriez le faire.
Si tu es sur Podcast Addict, tu sais que tu peux rajouter un truc dans le flux XML pour qu'il y ait un bouton qui s'affiche. Soutenez l'émission.
Ah, il faut que je regarde ça. Non, je ne savais pas. D'accord, ben, je vais regarder ça aussi. Mais enfin, il y a déjà un bouton un lien dans les liens de l'émission. Il est très facile à trouver vers Patreon.
Ouais, il n'y a jamais assez de boutons pour récupérer de l'argent. Nous, on en met partout.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on continue avec les news et rumeurs. On va parler d'Android et la nouvelle version d'Android qui est disponible pour les développeurs. Android 11, alors il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été... C'est assez tôt pour sortir une version de la nouvelle version d'Android, mais c'est vraiment une version pour les développeurs. On aura sans doute des nouvelles fonctionnalités qui seront annoncées lors de la conférence de Google pour les développeurs, mais là, il y a, disons, la chose qu'on retient, c'est qu'il y a des fonctionnalités de protection de la vie privée un petit peu mieux conçues, de la même manière que Apple et iOS s'inspirent d'Android parfois. Bah là, Android s'inspire de iOS avec la possibilité de dire aux applications qu'elles ne peuvent utiliser notre localisation qu'une seule fois. Et pas ou que quand l'app est active, ou même juste une seule fois, ça c'est la nouveauté, ce genre de choses. Il y a les conversations en bulle qui reviennent, elles avaient été présentes un petit moment dans l'ancienne version d'Android, mais elles avaient été supprimées, donc les gens qui utilisent Facebook Messenger, je crois, a des bulles aussi, donc on peut mettre la bulle de la conversation n'importe où sur l'écran, sur une autre application n'importe où, et puis revenir à notre conversation, à notre chat facilement, et quelques autres applications de cette manière. Mais l'essentiel, c'est autorisation temporaire et focus sur la sécurité et la vie privée, on va dire. Ce qui est pas mal.
Bonne chose.
En Union européenne, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Google a fait une chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Ils ont lancé une sorte de carrousel de choix. Alors ça, normalement, ils sont obligés de payer les impôts. Hein, mais ils ont lancé, dans quelques pays européens, un carrousel de choix qu'ils avaient déjà montré en tant que concept. Mais quand vous faites une recherche... Il vous propose bien sûr les résultats de la recherche, mais aussi en haut un petit cadre avec trouver des résultats sur d'autres services, par exemple sur Yelp ou sur d'autres catalogues de ce type, pour encore une fois ces questions de position dominante, pour contenter les gouvernements. C'est vraiment juste une petite boîte en haut. Alors il peut y avoir des résultats vers Yelp ou la fourchette ou ce que c'est, même dans les résultats organiques de Google. Mais là, c'est vraiment une petite boîte dédiée en haut des résultats de recherche pour vous encourager à aller chez les concurrents, en fait. Est-ce que ça vous semble suffisant comme modification, ou est-ce qu'on est encore dans une situation où ils ont trop de pouvoir ? Je demande à Gaël, peut-être, toi, quand tu fais ta recherche Google, ça te dérange de ne pas avoir, intellectuellement, de te dire, bah, y a peut-être d'autres concurrents ailleurs que je ne connais pas ?
Oui, forcément, mais après, ça s'apprend à savoir chercher aussi. Donc, tu es capable aussi de chercher différemment, tu es capable de chercher sur plusieurs moteurs. Je sais que c'est un exercice difficile et peu de gens le font, hein, mais tu peux chercher sur plusieurs moteurs à la fois pour voir justement quels sont les différents résultats. Tu vas t'apercevoir assez vite que finalement, les premiers résultats sont souvent les mêmes. Tout de même. Donc voilà. Après, t'envoyer chez les concurrents, te donner l'information. L'information est là, et si tu la cherches, tu la trouves. Donc ils font leur. Je trouve quand même qu'ils évoluent dans le bon sens. Pour leur donner quand même un peu, pour pas tout le temps taper sur eux. ils évoluent dans le bon sens. Ils amènent de plus en plus de choses. Là, tu vois, en plus, regarde, ils étaient même pas obligés de le faire.
Et oui, disons fait... qu'il y a tellement de discussions qu'ils savent ce qui leur pend au nez, donc c'est pour prendre les devants.
Non, mais ils commencent. Enfin, voilà, donc comme quoi ça fonctionne. À force de leur taper dessus, ils commencent à se dire OK, on va y aller tout seul comme des grands, et avant de se faire encore une fois taper dessus. Donc donnons-leur le bénéfice du doute, et donnons-leur le fait qu'ils évoluent vers ça. Après, ils gagnent toujours de l'argent avec, et nous, on est bien contents aussi qu'on nous serve des résultats tout frais sur un plateau. Donc j'ai envie de dire, si tout le monde est content.
Ouais, bah ceux qui sont pas contents, c'est les moteurs de recherche autres, et c'est pas que les moteurs de recherche d'information, mais il y a des trucs spécifiques. Je parlais d'Yelp, mais il y en a plein d'autres. Les moteurs de recherche de produits ou de shopping ou de cartes, enfin ça s'applique à tout, hein. Mais eux, ils sont pas contents parce qu'ils ne réussissent pas à avoir autant de trafic. Mais c'est compliqué parce que c'est encore une fois un problème de position dominante. Et tu dis, Gaël, on peut apprendre à chercher. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il est aussi parfois difficile de savoir ce qui existe d'autre. Parce que, justement, Google est tellement dominant qu'on n'a pas dans notre champ de conscience certains de ses concurrents. Quelques-uns, oui, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il est difficile de voir émerger, en fait. Et donc, toute la question, c'est de savoir, est-ce que Google est dominant parce qu'ils sont tellement bons ? C'est vrai qu'ils sont très, très bons. Et moi-même, qui utilise Quant, que j'aime bien, je suis d'accord, je l'utilise presque par... Enfin, je me force un petit peu à utiliser Quant, qui est correct, mais Google...
Le moteur de recherche de Bing, de toute façon, Quant, non ?
Alors oui, pas oui. Tout à fait, ils adaptent ouais. Un petit peu les résultats de Bing, t'as raison, mais c'est pas... Bon, on pourrait parler de Quant pendant très longtemps, mais est-ce que c'est parce que Google est très bon, ou est-ce que c'est parce que, justement, on voit plus les autres ? Ou même, est-ce que ça a une importance ? Est-ce que ça peu importe qu'ils soient très bons ? Il faut, dans un marché sain, qu'on puisse voir les autres. Et s'ils sont tellement présents qu'on voit pas les autres, bah, à la limite, on s'en fout. Il faut donner artificiellement, forcer à avoir plus de visibilité. Là, c'est une proposition qu'ils avaient déjà fait à l'Union européenne, que l'Union européenne avait jugée insuffisante. Ils ont modifié un petit peu, c'est un petit peu plus visible. Je ne suis pas convaincu que l'Union européenne soit satisfaite, mais encore une fois, le problème, c'est que l'Union européenne ne dit pas exactement ce qu'elle veut dans ce cas de figure. Donc,
Après, moi, si tu veux, moi, j'ai un vrai problème avec ça. C'est pourquoi est-ce que c'est à Google de faire en sorte que ses concurrents émergent ? Enfin, à un moment donné, c'est un peu bizarre, philosophiquement parlant.
Position dominante.
Mais à partir du moment dominante, ils ne sont pas allés chercher les gens au couteau pour avoir cette dominance. On est d'accord, hein, les gens l'utilisent et c'est parce que c'est historique. Ils ont commencé avant tout le monde et qu'ils ont plus d'utilisateurs, ils ont plus de données et forcément, effectivement, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position où ils ont plus de résultats, ils ont plus de données, ils ont plus d'utilisateurs. Si tu prends les grands magasins, je fais une analogie avec la vie physique, tu as les grands magasins, ils ont des énormes malls, ils ont des énormes lieux, bah, le petit épicier du coin, il est derrière dans la petite rue, on ne le voit pas. Bah, est-ce que c'est au gros magasin ?
C'est pas tout à fait la même chose, parce que dans l'analogie que tu donnes, il y a plusieurs chaînes, plusieurs marques de grands magasins, et donc la concurrence peut s'exercer. Il peut y avoir des ententes tacites, machin, mais chaque chaîne, c'est le principe même du marché libre, c'est que la concurrence fait que le consommateur est moins floué, ou on garde un certain équilibre parce que chacun pousse l'autre à faire des choses plus attractives pour le consommateur. Dans le cas des moteurs de recherche et de bien d'autres domaines dans la tech, il y a un acteur qui domine de manière écrasante. Et dans ce cas-là, c'est Google avec les moteurs de recherche. Mais quand on arrive dans une position, je ne suis pas économiste ou juriste, donc dites-moi si je me trompe, mais quand on arrive dans une situation de position dominante, peu importe la manière dont on y est arrivé, ça dérègle le marché. Et le consommateur en souffre parce qu'on ne peut, il n'y a plus de pression sur l'acteur qui est en position dominante pour faire les choses de manière équilibrée. Il peut faire ce qu'il veut avec nos données, avec les prix, c'est ça le problème de la position dominante. Et donc, la raison pour laquelle il faut rééquilibrer ça, c'est pas pour être méchant avec Google, c'est parce que le système de concurrence ne fonctionne plus et donc le marché est déréglé et le consommateur en souffre. En souffre avec tout ce dont on parle, régulièrement dans ces domaines. Donc, je comprends tout à fait la logique qu'on entend souvent, qui est celle que tu donnes, Gaël, est tout à fait cohérente. Mais le problème, c'est que quand on est dans une situation de position dominante, les règles changent. Et c'est plus... On ne peut pas appliquer les mêmes règles que quand il n'y a pas de position dominante. Sinon, les choses n'évoluent pas et le marché en souffre, quoi.
Non mais alors, je fais les choses pour l'exercice de style, hein, parce que je suis totalement d'accord. Et nous, notre philosophie, c'est justement d'apprendre aux gens qu'il y a d'autres choses que Google, qu'il y a d'autres choses qu'Amazon, qu'il y a d'autres choses, et qu'il faut justement savoir le faire, il faut les connaître. Donc on est là-dessus, on est complètement en phase, et c'est important pour en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, en tant que tout ce que tu veux. Après, encore une fois, je dis juste qu'en fait, de demander à Google de le faire, enfin, à un moment donné, évidemment, ils vont le faire avec des pieds de plomb, et c'est normal. Enfin, tu peux pas, c'est logique, et ils vont pas faire les choses le mieux possible, et ils vont attendre en général qu'on leur tape dessus. Là, pour une fois, ils attendent pas qu'on leur tape dessus, ils montrent un petit peu une mini bonne volonté. C'est bien. Faut aller plus loin, mais à un moment donné, je ne pense pas que ça n'est qu'à Google, ça n'est pas que de la responsabilité de Google.
Bah, le problème... C'est assez terrible avec Google, je trouve. Je te coupe un peu, excuse-moi.
Vas-y, vas-y.
Et que moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes, parce que, entre autres, j'ai des cybercafés, donc je vois beaucoup de personnes qui passent, qui utilisent Internet de façon totalement casual. Et les gens, en fait, confondent aujourd'hui Internet avec Google. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne sont pas devant la page de Google quand ils arrivent tout de suite, ils sont complètement perdus. Ils n'ont même pas conscience. En fait, le point de départ d'Internet, ce n'est pas Google. C'est là qui est assez terrible et c'est là où...
Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une barre d'adresse dans laquelle on peut taper une URL pour aller ailleurs que sur Google. Ouais. Bah,
Le navigateur, pour eux, c'est le moteur de recherche. Hein.
Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mm. Et là, il y a un vrai problème d'éducation, sûrement. Il y a des choses à apprendre aux gens. Même dans les jeunes générations, d'ailleurs, on pourrait penser que les jeunes sont...
Surtout dans les jeunes générations.
Ouais. Ouais. Gaël, dont c'est le boulot, le voit régulièrement. Oui.
Ouais. C'est vrai que c'est fou. Quoi.
Bah, en ce sens-là, effectivement, c'est pas forcément à Google de corriger ce problème-là, mais disons qu'il y a certaines actions de l'Union européenne qui sont claires. Ils disent, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, dans les problèmes qu'on a avec les géants de la tech. Les questions avec Google, à moins que je ne l'ai pas vu spécifiquement, mais il n'y a pas eu de décision claire. Ils n'ont jamais dit « il faut que vous fassiez exactement cela ». Ça se trouve, Google, ils sont dans la même situation que nous et ils disent « oui, bon, alors on fait un super truc, on a une position dominante, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse ». Là, littéralement, ils mettent les pages des concurrents tout en haut des résultats. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ou alors, il faut qu'on explique ce qu'ils peuvent faire de plus. Alors, mais ils disent « allez chez les autres ».
Il n'y a pas d'alternative, en fait, parce que quand tu regardes qu'est-ce que... Enfin, tu vois, tu ne peux pas démanteler un moteur de recherche, c'est un seul bloc. Ouais. Tu as quoi comme alternative?
Tu pourrais démanteler la partie carte, la partie image, la partie... Bon, tu vois, ça serait possible.
Mais ça n'a pas de sens. Quand tu fais une recherche, tu ne sais même pas forcément, d'ailleurs, ce que tu recherches exactement. Et les gens, ne sachant pas faire une recherche, ils ne savent pas s'ils veulent un résultat sur une carte, s'ils veulent un résultat... Enfin, donc, tu ne peux pas démanteler le truc. Ouais.
Bon, c'est compliqué. Écoutez, on n'a pas résolu le problème, peut-être dans un prochain épisode. Deux ou trois autres petites news sur Google. Ils ont décidé de déplacer les données des utilisateurs anglais hors de l'Angleterre et ils vont les ramener aux États-Unis où leurs données sont beaucoup moins bien protégées. Donc, merci le Brexit. Ils ont également décidé, ça c'est un truc sur lequel je vais pas trop m'étendre, mais je vais juste vous le mentionner comme ça parce que c'est intéressant. Leurs outils de reconnaissance visuelle d'intelligence artificielle qui identifie les personnes et tous les objets et toutes les images en tant que service, c'est un service qui vous permet de faire ça, ils ont décidé de ne plus mettre de label homme ou femme sur les personnes parce que le genre ne peut pas être déterminé par l'apparence de quelqu'un. Alors c'est une question du théorie du genre par rapport au sexe et c'est quelque chose qui est un petit peu qui provoque des commentaires acides parfois mais qui est beaucoup plus compliqué que ce que certains pensent, mais c'est intéressant parce que sur la question théorique, effectivement, le genre est un sujet hyper intéressant et qui ne se conforme pas au sexe. Je ne suis pas un expert, donc excusez-moi si je n'utilise pas les bons termes, mais c'est également intéressant parce que il y a également une réalité de la recherche d'images. Et du coup, on va pouvoir chercher personne, mais on va pas pouvoir chercher homme ou femme. Ce qui, quand on va vouloir des images d'un type spécifique, je sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais bon, c'est une décision vraiment intéressante. Et on verra ce que ça donne. C'est clairement sur le comment dire à l'avant de la fronde inclusive de la tech, ce qui est en général une très bonne chose. Sur ce cas particulier, j'aurais on pourrait en discuter pendant très longtemps, mais évidemment, d'une manière générale, les questions de genre sont des questions qui sont trop souvent ignorées. Et enfin, l'Union européenne, encore elle, a décidé qu'ils allaient utiliser Signal comme application recommandée pour toute leur communication chiffrée, ce qui est une très bonne chose. Comme on le dit souvent, Signal, et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, s'il y a une application sécurisée pour vos communications pour lesquelles vous voulez que personne ne puisse avoir accès, et ben c'est Signal qu'il faut utiliser, pas WhatsApp, pas Telegram. Telegram, c'est pas mal, mais ils sont pas open source. Pas tous ces trucs, c'est Signal qu'il faut utiliser. Donc,
c'est décentralisé ou c'est...
C'est pas décentralisé, mais c'est chiffré. Et eux, je crois qu'ils n'ont rien sur leur serveur, donc c'est plus ou moins décentralisé, oui. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est...
ça appartient à une compagnie, c'est pas...
C'est une société ou une organisation non gouvernementale, je crois que c'est une association. Mais ils sont complètement open source et chiffrés de bout en bout, et ils travaillent très très dur à ce que tout soit chiffré de bout en bout. Donc c'est vraiment très... Enfin, c'est quasiment impossible. Il faudrait cibler une personne spécifique pour obtenir les informations de des messages transmis par cet outil. Ils ont développé un protocole qu'utilise aussi Telegram. Enfin, c'est très compliqué, mais Telegram le modifie un petit peu, et Signal, c'est la source, et ils sont open source, et tout le monde peut aller voir si les choses sont bien faites. Donc,
une garantie.
C'est ça. Et l'Union européenne, du coup, va utiliser ça, ce qui est une très bonne chose pour leur communication interne.
WhatsApp en groupe, oui.
Voilà.
Tu vas tirer sur Google au bout d'un moment, c'est mieux.
Exactement. Est-ce que vous connaissez Solid, la société de... Enfin, c'est Inrupt/Solid, la société de Tim Berners-Lee.
Non. Eh bien, grâce à toi, oui.
On parle encore de vie privée. C'est un projet de Tim Berners-Lee qui veut rétablir l'équilibre. Alors, Tim Berners-Lee, c'est le papa du World Wide Web, hein, du protocole du web qui se repose sur le protocole de l'Internet. Donc, toutes les pages web, c'est de lui que ça vient. Et il a lancé un projet qui vise à redonner un petit peu de pouvoir aux utilisateurs dans le contrôle des données privées. Alors, ça existe depuis un petit moment, hein, ce projet, depuis 2019. Mais, je crois, 2018 ou 2019, mais il continue à avoir un petit peu de presse. Ils ont récupéré Bruce Schneier, qui est un expert en sécurité, pour s'assurer que le projet soit vraiment tip-top pour tout ce qui est sécurité. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un repository, non, c'est pas comme ça que ça se dit en français.
Suppositoire.
Un repository ?
En suppositoire.
Ah, d'accord, ça c'est dans la version apéro du capitaine.
Voilà, c'est ça.
On va dire une armoire, un espace de stockage dans lequel vous allez avoir toutes vos données privées et vous donner accès aux différents services à ces données privées, de manière à ce qu'elles doivent les regarder dans votre espace de stockage et qu'elles ne les aient pas chez eux ou chez elles. Les services n'auront pas vos données chez eux, mais elles sont chez vous et vous les contrôlez. Alors, bien sûr, évidemment, ces données peuvent être copiées, elles peuvent, etc. Il faut s'assurer que les services qui l'utilisent de manière correcte et ne vont pas aller aspirer toutes les données. Mais si on a des gens un petit peu sérieux qui utilisent ces trucs-là, ça fonctionne sur le principe. Et au moins, ça donne un petit peu plus de contrôle aux utilisateurs, parce qu'on peut nous-mêmes aller couper l'accès à nos données et... À partir de là, ils ne pourront plus les voir. S'ils ne les ont pas copiés comme ils donnent l'accord de le faire, et ben, ils n'y ont plus accès. Et c'est une manière de, comme je le disais, permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données privées. Et tout en, on pourrait imaginer, par exemple, alors, c'est pas demain que Facebook va utiliser les choses comme ça, mais peut-être que si plein de petits services les utilisent, à terme, il pourrait y avoir une pression sur les plus gros pour utiliser ce type de système également. Mais si demain, Facebook, vous vous connectez à Facebook par ce biais, eh ben, toutes vos données restent dans votre espace de stockage. Ils ont votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, si vous voulez donner accès à ces données-là. Et un jour, vous vous dites, allez, Facebook, j'en ai marre, je coupe l'accès. Eh ben, Facebook n'a plus aucun accès à vos données. Donc, c'est quelque chose qui est... Et à chaque fois qu'ils veulent y accéder, ils doivent aller les récupérer, ou peut-être que vous pouvez dire, vous pouvez les garder une semaine, deux semaines pour pas pinguer les serveurs tout le temps, mais ce genre de choses. Et donc, vous gardez le contrôle. C'est un projet un petit peu utopique, mais Tim Berners-Lee derrière, il y a du potentiel, on va dire.
Oh, l'idée est excellente, l'idée est absolument excellente. Mais après, est-ce que ce sera... Je pense qu'ils vont pas se presser pour prendre ce genre de protocole. Prendre l'exemple de Facebook, pas gagné.
Non, ça c'est certain, oui. Facebook, ça va pas être les premiers à faire la queue.
Pour les gros, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Mais petit à petit, ça pourrait... Disons que c'est une idée qui pourrait prendre corps. Moi, je la vois bien végéter pendant un certain temps et puis tout à coup être réveillée par un événement ou quelque chose, un service qu'il utilise. Ça pourrait marcher.
Ça va mettre un peu le temps, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça viendra d'un coup.
Peut-être, ouais. Mais il suffirait, par exemple, je sais pas, si Apple, par exemple, a vraiment à cœur la protection de votre vie privée, peut-être qu'il pourrait utiliser un système de ce type-là. Je ne sais pas si ça va se produire demain. On a un sujet ajouté par Siegfried, mais je veux juste mentionner celui-ci. Vous avez peut-être vu les titres sur une federal court, tribunal fédéral. Voilà, j'ai du mal avec les termes français aujourd'hui. Un tribunal fédéral suisse qui a jugé que des likes ou des partages sur Facebook pouvaient être considérés comme de la diffamation si l'information likée ou partagée était diffamatoire. Alors là, on se dit, mais on retourne le bureau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si je like un truc sur Facebook, je peux être attaqué en justice pour diffamation ? Alors, c'est pas si simple que ça, je voulais juste l'expliquer en deux secondes. Dans la loi suisse, et je sais qu'on a des auditeurs suisses, donc je suis sûr que vous pourrez me dire si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, dans la loi suisse, la diffamation ne nécessite pas l'intention de nuire. Le simple fait de diffuser une information qui est diffamatoire peut vous rendre coupable de diffamation. Ce qui veut dire que si on n'est pas sûr, il vaut mieux se retenir, il vaut mieux s'abstenir parce que la diffusion suffit. Alors ça, c'est en général, au-delà de du web. Et appliqué au web, ce qu'a dit la décision de justice, c'est que la personne qui avait diffusé ces informations diffamatoires l'avait fait à un public très très large, ce qui revenait à, en quelque sorte, publier l'information même. C'était pas juste un ami qui l'a partagé avec ses 10 amis, c'était une personnalité publique qui avait un public large. Et dans ce contexte, ça revient à diffuser l'information et donc à diffuser la diffamation et donc à faire de la diffamation soi-même. Donc c'est pas aussi simple que de se dire un Facebook like va vous amener devant les tribunaux parce que vous êtes rendu coupable de diffamation. Donc je voulais expliquer la chose parce que souvent on a des gros titres un petit peu aguicheurs et on ne comprend pas bien comment ça peut être vraiment le cas et on en repart si on va pas chercher un petit peu plus loin avec l'idée que les Suisses, ils vous accusent de diffamation pour un like sur un post un petit peu, sur un article un petit peu douteux. Et non, évidemment, c'est pas ça. Donc voilà pour l'histoire de la diffamation. Siegfried, tu voulais nous parler de Bitcoin ?
Oui, de Bitcoin, parce que j'ai lu cette histoire qui était, que j'ai trouvé super intéressante, d'un mec qui s'appelle Clifton Collins, en fait, qui a été arrêté en 2017.
Ah, celui qui a fait brûler ses trucs ?
Oui, en fait, il faisait du trafic de cannabis. En fait, il faisait pousser du cannabis. Et donc, il y a eu une descente chez lui en 2017 et ils ont trouvé 400 000 dollars en liquide. Il y avait des plants et des plants de cannabis partout. Enfin bref, en tout cas, le truc, c'est que le mec, il faisait ça depuis 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus. Et c'était en Irlande. Et il avait accumulé énormément d'argent sur des portefeuilles en bitcoin. En fait. Et donc, la police a récupéré un des portefeuilles. Il y avait quand même 1,5 million d'euros dedans. Mais ils ont récupéré surtout les adresses de 12 autres portefeuilles qui chacun contenait, je crois que c'était 500 bitcoins. Donc en gros, ça veut dire que si tu calcules, c'est à peu près 52 millions d'euros. Parce qu'en plus, le bitcoin a beaucoup augmenté ces dernières années. Bon, des hauts et des bas. Et le truc intéressant, c'est qu'en l'occurrence, quand il a été interrogé, il a dit « moi, j'ai pas les mots de passe pour accéder à ces portefeuilles ». Je les ai paumés, donc ils ont plus ou moins enquêté, ils se sont rendus compte qu'effectivement, a priori, il avait l'air de dire la vérité, qu'il les connaissait pas par cœur. Et ils se sont rendus compte au bout de, je ne sais plus, peut-être 6 mois, 1 an, qu'en fait, il avait tout noté sur les feuilles de papier qu'il avait laissé chez lui, planqué dans du matériel de pêche, je crois. C'est et ça, qu'en fait, quand le propriétaire avait débarrassé la baraque, il avait jeté, il avait fait brouiller ou je ne sais plus quoi, ce truc-là en question. Et donc, ce qui fait qu'en gros, ça amène à une perte de 50, plus de 50 millions d'euros en bitcoin. Et ce qui me passionne un peu là-dedans, c'est de me dire, mais combien de bitcoin, combien de portefeuilles en bitcoin ont été perdus et combien de millions n'ont jamais retrouvé, ne serait-ce que les premiers qui ont été créés, parce que le bitcoin a été lancé, il y a plein de gens qui se sont lancés là-dessus pour s'amuser et qui ont perdu toutes les informations pour récupérer leur pognon, quoi. Et ça
me laisse assez rêveur de ce genre de truc. Ne savent pas, les portefeuilles Bitcoin, c'est des fichiers qui sont physiquement sur votre disque dur et auxquels vous devez avoir accès par mot de passe. Et si vous n'avez pas le mot de passe, c'est fini. Donc, vous n'avez plus accès à votre portefeuille. Et moi-même, alors c'était pas des bitcoins, c'était des Dogecoin. Et les Dogecoin.
Ils ont augmenté aussi, les Dogecoin. Hein.
Alors ils ont un petit peu augmenté. Je crois que j'avais 0,00002 Dogecoin envoyé par mon ami Turkey en Arabie Saoudite. Et voilà. Et je crois que je ne les récupérerai jamais, malheureusement. Mes Dogecoin sont perdus parce que je sais même plus où est le portefeuille.
Ouais, non, mais moi aussi, ça nous est arrivé. On avait reçu. Une toute petite partie de Bitcoin par un auditeur, il y a de ça 7 ans, 8 ans, et on n'a jamais retrouvé le portefeuille, le mot de passe. On doit quand même avoir 100 ou 200 euros dessus qui traînent, et c'est perdu.
Écoute, donc, ne planquez pas vos mots de passe Bitcoin trop bien, il ne faut pas trop bien les planquer. Je suis sûr que même ce jeune homme qui a été arrêté, il aurait bien voulu que, perdu pour perdu, que ça serve à la communauté, son passé criminel. Je ne sais pas, c'est quand même...
Non, mais alors, après, il a peut-être une copie quelque part. Hein. Il attend peut-être de sortir de prison dans 20 ans pour pouvoir y accéder. Quoi.
À savoir si les bitcoins vaudront encore quelque chose. Peut-être qu'il faut qu'il fasse passer le mot de passe à une personne de confiance pour les vendre maintenant. Parce que dans 20 ans...
Après, comme tout est public, maintenant que les gars ont l'adresse des portefeuilles, qu'ils savent qu'ils existent, on peut tracer si jamais les gens prennent de l'argent dessus. Quoi.
Ah bah oui, c'est sauf que si tu sais qu'on fait comme dans les films, on met un écran avec une carte du monde et des lignes qui vont d'un compte à l'autre, qui sont passées par 50 comptes en offshore, et comme ça, même si les autorités savent, ils ne pourront jamais les retrouver.
Oui, après oui, ça devient compliqué.
Et après, il faut appeler Dominique Toretto et Fast and Furious pour faire une opération de récupération. D'ailleurs, vous avez vu la bande-annonce de Fast and Furious 8, ça a l'air très très bien.
Ouais. Alors, j'ai cru, oui, il m'a semblé voir ça. Mon cerveau s'est déconnecté, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait dedans.
C'est exactement pour ça que c'est fait et ça fonctionne très bien. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez pas de rester pour la partie où je commente les commentaires que vous avez faits sur le sondage. Mais avant ça, bien sûr, on va vous donner à vous deux l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver. Gaël, est-ce que tu es quelque part sur Internet ?
Oui, avec mon SE2 bientôt, quand j'aurai le 2, je pourrai me connecter. Non, j'y suis déjà. On peut me retrouver sur Twitter @cood_fr. Donc Cood, c'est COOD. Ou moi-même @gmgirardo. Pareil sur Twitter de manière générale, ou après sur le site cood.fr, Facebook, tous les réseaux. Et bientôt sur Signal, du coup, j'ai téléchargé Signal.
Ah, très bien, bravo. Moi j'ai Signal depuis très très longtemps et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, mais c'est peut-être le début d'une grande vague d'utilisation de Signal.
Je le télécharge.
Eh ben vas-y, voilà, c'est très bien. T'es pas sur Instagram du coup, Gaël?
J'y suis très peu. J'y suis très peu. Si vous voyez un Girardeau sur Instagram, c'est mon mari, en général. Donc, vous pouvez le suivre aussi. Il a écrit un super bouquin sur le monde des GAFAM. Donc, allez voir sur Instagram.
Vas-y, parle-en une seconde.
Écoute, comme on a travaillé tous les deux chez Microsoft à l'époque, moi ensuite Google, il a écrit un thriller qui s'appelle Persona sur les masques qu'on porte dans le monde du digital. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller suivre le Girardeau qui est sur Instagram. Ce n'est pas moi, c'est mon mari.
Très bien. Oui, je sais qu'on est, un petit peu trop âgé dans le public du rendez-vous tech pour être sur Instagram, mais non, il faut continuer à être jeune dans sa tête.
T'as pas de compte TikTok?
Pardon, mais si, mais bien sûr, mais moi, tu sais, c'est marrant parce que je parlais d'Instagram là, à l'épisode précédent. Oui, je vais. C'est des choses qui sont intéressantes. Et il y a des gens qui me disaient, ah, ben voilà, Patrick découvre Instagram, machin. Bon, d'une part, je suis sur Instagram depuis très longtemps, depuis sans doute avant vous. Donc, c'est bon, les millénials, voilà. Depuis avant vous, je suis sur TikTok depuis longtemps. Je me tiens au courant de tout ça. Mais il y a une différence entre connaître le truc et vraiment comprendre les différences des composantes qu'il y a entre les différents réseaux sociaux, la manière dont ça fonctionne, pourquoi c'est intéressant, quel avantage, quel inconvénient ça a. Mais bon, sinon, Instagram, moi, j'utilise depuis presque... Mais oui, ça fait 10 ans, c'était 2010 maintenant. Donc, c'est bon, hein, les millénials, je sais rien. Moi, je ne suis pas un boomer, je suis un Gen Xer, donc on n'est encore, pas encore dans cette catégorie de gens, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques années encore. Et d'ailleurs, Siegfried et lui... Ah non, sur Twitter, ok. Bon, t'es où alors,
hein? Oh, moi, je suis un peu partout. Écoute, Captain Web sur Twitter, Happy Rudy Captain sur Instagram, puisqu'on a aussi un compte que j'ai... On a alimenté quand on était à Las Vegas, justement, au CES, il n'y a pas longtemps. Par ça, il n'y a pas grand-chose, mais bon, il faut toujours y aller. Et puis, Captain Web, en général, et Apéro du Captain, un peu partout. Vous trouverez.
Super. Des
informations qui ne sont pas forcément intéressantes, mais bon. Ça, nous fait, ça nous fait du monde en plus.
Tu le vends super bien, ton
Oui, je sais, ouais, je suis bon en marketing.
Et oui, toi, tu n'es pas encore happé par le professionnalisme marketeux dont je suis victime, moi. C'est encore naturel, je vois bien. Donc voilà pour Siegfried. Pour ma part, bah oui, vous l'avez compris, NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, où vous pouvez me taguer pendant que vous vous endormez avec mon émission. Vous pouvez le faire sur Twitter aussi, hein, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et bah voilà, l'émission est sur frenchspin.fr si vous voulez laisser des commentaires. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, il y aura eu... Ah mais non, j'ai complètement oublié de le dire. Alors oui, il y aura le rendez-vous jeu qui va être super intéressant dans quelques jours. Si vous voulez écouter un petit peu un podcast sur les jeux vidéo. Mais aussi, la semaine prochaine, ma femme et moi, on part... À Tokyo, on sera une semaine à Tokyo si le coronavirus ne nous empêche pas de nous poser.
Choisis le bon moment.
Ouais, vraiment, c'est comme je le disais, ça va être la première semaine qu'on passe sans le petit depuis sa naissance. Donc ça va être intéressant.
Profites-en.
Oui, 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 oui. Nous, on est complètement pétri de culpabilité quand on va partir, on va se sentir super mal. Mais bon, il va rester avec son grand-père et son oncle, ça va bien se passer. Et je suis sûr qu'au bout de 5 minutes, on sera waouh, c'est la fête, pas de problème. Bref. Mais donc la semaine prochaine, je ne serai pas là. Guillaume, que vous connaissez bien, Guillaume Vendée, va venir animer l'émission et moi, je reviendrai la semaine suivante. Mais donc voilà, j'ai une petite semaine de vacances, j'ai très très hâte. Donc ça sera un épisode sans moi pour la semaine prochaine et en tout cas on reste ensemble pour juste après le générique, vous aurez les commentaires très longs sur tout ce que j'ai retenu de vos commentaires dans le sondage et donc je vous laisse écouter ça si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup à tous d'avoir écouté et à la prochaine. Alors nous voilà tous les deux. Je vais commencer à faire de l'ASMR. Bon, donc comme promis, je vous parle un petit peu des nombreuses remarques que j'ai eues sur le sondage. Comme je vous disais, il y a eu sur les plus d'un millier de personnes qui ont répondu, il y a plus quasiment la moitié qui ont laissé un commentaire à la fin. Donc ça a fait énormément de choses à lire. Beaucoup de positifs, bien sûr. Je pense que les gens qui ont répondu sont des gens qui aiment bien l'émission. Mais il y a eu quelques remarques négatives et constructives dont je vais parler également. Alors, et puis bon, d'une manière générale, une vue d'ensemble de tout ça. D'abord, il y a eu pas mal de merci pour ton travail, continue, ce genre de messages qui m'ont fait évidemment très plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir ce genre de discussion et ce genre de retour. Donc, ça fait plaisir à lire et dans un monde de l'Internet où les choses sont parfois un peu abrasives, là, ça remonte à bloc. Et rien que pour ça, je pense que je pourrais peut-être refaire le sondage régulièrement tous les ans. Je l'avais fait de temps en temps et je n'avais pas fait pendant quelques années. Je crois que je le referai régulièrement parce que c'est un moment de contact, un autre type de contact qui a des effets positifs aussi. Alors, j'ai une recette de la crêpe Suzette qui était assez cool. Merci, merci beaucoup. J'ai eu un commentaire sur, enfin plusieurs sur les photos. Évidemment, le truc qui attirait, qui était le produit d'appel du sondage, c'était les photos et vous avez l'air de tous les avoir pas mal appréciées. Alors, le sondage est fermé maintenant. Pour ceux qui les ont ratés, bah, désolé, c'est trop tard. Il faudra pas dormir pour le prochain sondage, même si je ne sais pas si je vais réussir à trouver des photos d'aussi bonne qualité, encore que j'ai peut-être des stocks quelque part dans les vieilles photos à numériser dans les tas qui sont dans les placards. Alors, les commentaires un petit peu plus longs. Bravo à toi pour l'entreprise que tu as osé démarrer seul et sans repère. Quelqu'un qui me dit, si tu te rappelles, je t'ai contacté sur Messenger il y a 3 ans pour que tu m'aides à récupérer des répondants à un entretien pour mon mémoire universitaire. Et je t'en remercie encore. PS2, j'ai réussi. C'est une personne qui a donc réussi pour son mémoire. Et il y a eu quelques commentaires là-dessus. C'est vrai que j'essaye, j'ai pas toujours le temps, mais j'ai presque toujours le temps. En tout cas, j'essaye de le prendre, de répondre à toutes les questions, d'aider tous les gens qui m'envoient des petits messages. Quel que soit le moyen. Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai réussi à quasiment tout faire. Donc, ça fait plaisir de voir que les gens n'oublient pas. Donc, c'est cool parce que ça demande évidemment beaucoup d'efforts aussi et c'est quelque chose de cool. C'est pas la seule personne qui dit ça, mais donc, j'en reparlerai un petit peu après. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai une petite question. J'aimerais que tu y répondes dans l'émission. Alors, je le fais à l'après l'émission. As-tu trouvé la case de ta feuille d'impôt où tu peux enregistrer les gains Patreon? tu verras la réponse dans quelques mois. C'est la personne qui dit ça. À l'époque où j'étais auto-entrepreneur, j'avais trouvé, oui. Et maintenant, c'est le comptable qui s'en occupe puisque j'ai une vraie société. Et c'est des gains qui sont des gains classiques. Et le contrat avec Patreon est fait pour que les gains soient enregistrés de manière parfaitement clean et normale. C'est une commission sur les trucs que gagne Patreon. Donc oui, les choses sont... C'est un truc d'ailleurs que je dis souvent... Je fais vraiment les choses dans les clous. Maintenant, c'est plus facile qu'il y a 5 ans quand je me suis lancé parce que ce type d'activité, c'était qu'un truc dont les autorités n'avaient jamais entendu parler à l'époque. Mais maintenant, ça se passe un petit peu plus facilement. Et puis surtout, mon comptable, que j'aime beaucoup, se charge de tout ça. Et trouver un bon comptable, c'est vraiment un truc hyper important quand on se lance dans ce genre de choses. Mon premier était horrible, mais horrible. Je crois que c'est ma pire expérience professionnelle et la meilleure chose que j'ai fait, c'est d'en changer. N'arrête pas les podcasts. Oh, nous savons où tu habites. D'accord, écoutez, dans ce cas-là, je ne vais pas arrêter alors. Enfin, j'aimerais particulièrement te remercier pour m'avoir autant appris durant ces 10 ans grâce au Rendez-vous Tech. Ça a vraiment du sens pour moi ce que tu fais et tu l'as fait à travers d'autres projets comme No Watch, Upload, The Movielicious. Un de ces quatre, j'espère que tu le ressusciteras, ça manque pas mal. C'est vrai que cette émission, elle me plaît beaucoup. Il y a Positron à côté, mais bon. Tu sais, lorsque j'avais 18 ans, j'ai passé un concours d'anglais organisé pour ma ville pour gagner un voyage linguistique dont l'épreuve principale consistait à rédiger un essai sur les liens entre tech et culture. Autant de dire que mes heures d'écoute du Rendez-vous Tech m'ont été très précieuses. Clairement, c'est un peu grâce à toi si j'ai pu rencontrer ce concours et passer 2 semaines sur la côte britannique. Je te souhaite une très belle journée et continue à vivre de ta passion tout en nous en faisant profiter. J'ai toujours mon t-shirt No Watch, RIP. Je pense que c'est devenu collector maintenant, c'est vrai. Merci Arthur. Il y a plusieurs histoires comme ça de personnes qui écoutent depuis longtemps et pour qui les émissions ont servi. Et même l'anglais, c'est vrai, on parlait de la langue que je parle sur Instagram, et c'est le cas sur Twitter aussi, il y a des gens qui disent « ça me gêne un peu quand tu parles anglais ». C'est un moyen d'apprendre aussi. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent les émissions, mais aussi qui lisent mes flux en anglais. Et oui, c'est un petit peu les haricots et pas les frites, on va dire, du repas, même si c'est très bon, les haricots, avec une petite noix de beurre, des bons haricots frais, c'est très bon, mais... Ça aide aussi à pratiquer et à pratiquer son anglais. Donc, je pense que c'est une chose qui pourrait servir, pas uniquement être un truc cool, mais c'est cool aussi, mais ça peut également servir. Et puis, les émissions en anglais, évidemment. Éviter à utiliser le mot écosystème. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut éviter écosystème? Ça me paraît être tout à fait, juste pour décrire certains éléments de la tech. J'ai pas bien compris pourquoi cette personne m'a demandé de ne pas utiliser le mot écosystème, et je suis pas au courant si d'une controverse ou d'une utilisation erronée du mot écosystème pour ces sujets tech. Alors peut-être que c'est pas prévu pour ça à la base, mais bon, si vous savez pourquoi il faut pas dire écosystème, si c'est comme au jour d'aujourd'hui ou ce genre de choses, vous pouvez me le dire en commentaire ou sur Twitter ou Instagram, dites-moi, je serais curieux de savoir. Un Phileas Club en français, oh là là, comme j'aimerais. Il y a deux choses qui reviennent tout le temps dans les podcasts. Le rendez-vous jeu en hebdomadaire, salut Thomas, mais il n'y a pas que lui qui le dit, mais c'est vrai que c'est un truc que j'adorerais faire, et il y a le Patreon pour ça, qui est, bon, on n'y est pas encore, mais j'adorerais faire ça, et il me faut plus de temps et pour pouvoir m'y consacrer, et le Phileas Club en français, j'aimerais beaucoup faire ça aussi. Bon, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises ce que c'est que le Phileas Club, mais si ça vous intéresse, c'est une émission en anglais, où je parle avec des gens de plein de pays du monde, d'ailleurs j'en enregistre une demain, ça devrait être intéressant aussi. Et voilà, mais en français, j'aimerais beaucoup. C'est compliqué à faire. À travers les années, tu partages indirectement les moments de nos vies. Tu es comme un grand frère cool, merci pour cool, qui a fait les meilleurs choix possibles pour vivre sa meilleure vie. Ta communauté t'adore et on te soutiendra au maximum. Je te souhaite que du bonheur. Signé LDVC. Merci LDVC. Alors, je ne sais pas si j'ai fait les meilleurs choix possibles. J'ai essayé de faire les bons et c'est vrai que je suis content des résultats. J'ai été très chanceux. Et merci aussi de dire un grand frère cool et pas un grand père cool. Je commence à sentir mon âge, mais c'est bien, le grand frère cool, ça me plaît. Et c'est vrai qu'on partage nos vies, et ça fait très longtemps que je fais des émissions, certains d'entre vous me suivent depuis très longtemps, et je crois que c'était toi Ludovic ou quelqu'un d'autre qui disait, et je l'ai repris à mon compte, c'est vrai qu'il y a dans nos vies différentes catégories de personnes, il y a la famille, les amis, et puis les étrangers. Et les podcasteurs, et moi, comme je suis là, je pense, peut-être toutes les semaines, peut-être même pour plusieurs émissions, je suis dans une catégorie entre toutes ces personnes, entre les amis et la famille, et les personnes qu'on ne connaît pas vraiment, ou qu'on connaît de loin, parce qu'on est ensemble tout le temps, on passe une heure, deux heures par semaine ensemble, donc c'est vrai qu'on est très très proches, et on partage toutes nos vies depuis un bon moment, donc il y a un rapport particulier entre nous. Et Ludovic ou LDVC le dit très bien. Encore un, décidément. Bonjour Patrick, je te suis depuis mes 17 ans en 2007 avec Azeroth.fr et depuis je n'ai raté que peu d'épisodes du rendez-vous tech puis du rendez-vous de jeu. Tu as accompagné mes déplacements dans les transports pour aller au travail, mais maintenant que j'habite à 2 minutes à pied, quand je vais tondre la pelouse. Mais maintenant mon moment favori est dans mon bain, bien détendu au chaud. C'est Clément qui me dit ça, bien dit au duo chaud, je vais arrêter là car ça devient douteux. Effectivement, tu fais peut-être bien. Merci pour ton humour, etc., etc. Merci à toi, ça m'avait fait bien rire. Tu es l'une des personnes qui m'écoute dans son bain. Un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, hein, il en faut pour tout le monde. Tiens, une remarque un petit peu moins positive. Faut pas toujours, surtout certains de tes invités, essayer de faire des blagues moisies, voire douteuses. Alors... les blagues, j'imagine qu'on n'essaye pas de les faire moisies. Hein. On essaye de les faire bien et puis elles sortent moisies. C'est pas fait exprès. Causer moins de politique US et parfois savoir dire que tu ne connais pas ou ne comprends pas un sujet plutôt que d'essayer d'une explication, voire une mauvaise analyse, bien que ça soit très rare. Bah oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors, sur les blagues douteuses, oui, parfois on en fait des pas très bonnes. On essaye un petit peu... surtout tes invités, tu dis. Si c'est les jeux de mots pourris, bon, désolé, ça c'est un petit peu la marque de fabrique aussi, surtout de Jérôme. Mais causez moins de politique US. Ça, c'est compliqué parce que la politique aux USA est à la fois une des sources des changements dans la tech. Enfin, la politique et ce qui se passe aux US en général est une des sources des changements. Et en particulier dans les périodes d'élection, c'est une sorte de moment de test pour ce qui va se passer dans la tech en général, et ce qui va se passer chez nous ensuite. Donc, je pense qu'il est important d'en parler, avec modération, bien sûr. Mais par exemple, quand on en parlait avec Cédric il y a 2 semaines, On a eu des remarques nous remerciant des explications, et notamment l'explication du caucus, parce que les gens ne comprennent jamais rien. Bon, ça, c'était pas spécifiquement tech, mais c'était important de parler de tout ça. Donc, sur la politique, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Par contre, effectivement, savoir dire qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas bien un sujet, j'ai peut-être été coupable de ça une ou deux fois. Généralement, comme tu dis, bon, c'est très rare, merci, j'essaye de connaître et de maîtriser les sujets. Ça peut m'arriver que je ne connaisse pas. Il y a, disons que je connais, je suis obligé de comprendre à peu près tous les sujets de la tech, et même si la tech c'est un domaine spécifique, à l'intérieur c'est très très vaste. Ça va de la programmation à la gestion des réseaux sociaux, à la manière dont légalement les choses se passent, à la gestion de la vie privée. Enfin, il y a énormément énormément de choses, les dernières tendances, les nouveautés matérielles, les processus de fabrication, il y a plein de choses. J'essaye vraiment d'en connaître autant que possible, et je fais de mon mieux, et je crois que j'y arrive pas trop mal. Et il y a parfois, c'est vrai, des domaines que je ne maîtrise pas assez pour parler d'un sujet, et peut-être que parfois j'ai essayé de me rattraper aux branches un petit peu maladroitement. Il faut que je le fasse moins, et que quand je maîtrise pas, bah oui, je dois pouvoir dire ah oui, alors ça, je connais pas parfaitement bien. J'ai l'impression que, je crois, j'ai tellement envie et besoin de faire un très bon travail pour l'émission et pour les auditeurs, parce que l'une des motivations de l'émission, c'est d'expliquer les choses. Donc, même si je sais que c'est pas possible de tout comprendre, j'ai l'impression de faillir à ma mission parfois. Mais bon, on est humain, c'est normal. Parfois, on va pas. Il y a des sujets spécifiques qu'on va pas maîtriser. Il faut pouvoir le dire. Donc, merci de la remarque. Effectivement, sur ce point, je crois que c'est important que je l'internalise. Donc, j'essaierai d'y penser. Bon, c'est pas vraiment le but recherché, mais dans le RER, vos podcasts ont un effet ASMR. Je me détends, et ça m'énerve parce que j'ai loupé plein de choses. Merci pour le travail fourni, auditrice occasionnelle. C'est toujours un plaisir de me cultiver avec vous. Bah, merci à toi. Encore une fonction. Décidément, il faut vraiment que je lance une émission ASMR. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a un marché à prendre, là. Malgré les remarques évoquées dans le sondage, alors c'est quelqu'un qui devait avoir fait des remarques un petit peu négatives, je dois reconnaître que c'est plutôt une bonne émission, bien produite et agréable à écouter. Les intervenants sont souvent pertinents et il y a une bonne ambiance. Spécial coup de cœur à toutes les interventions de Marion Doumain. Effectivement, elle est souvent très pertinente, Marion. Et s'il y a d'autres sujets que ceux relatifs aux GAFAM étaient abordés plus régulièrement, ça m'inciterait à participer au financement de l'émission. Je conçois que ce soit des sujets majeurs et qu'il faut bien entendu traiter leur impact vu leur importance sur la société. Mais j'ai le sentiment que ça tourne en rond parfois. Je vous souhaite tout de même une bonne continuation et beaucoup de succès. Mes salutations. Là, c'est vrai qu'on a des gros sujets qui reviennent. Ça va par vague. Je dirais pas que ça tourne en rond, mais parfois ça va par vague parce qu'on suit l'évolution. Et j'essaye de mettre un petit peu de variété, d'avoir des sujets un petit peu différents pour pas toujours parler des mêmes choses. Ça revient de temps en temps, mais peut-être que là aussi, il faudrait que je fasse un petit peu plus d'efforts pour proposer un petit peu plus de variété. Si c'est un sujet qu'on a déjà couvert la semaine précédente, et là, je crois que ces derniers temps, je le fais un petit peu plus. On va pas remettre le couvert sur le même sujet d'une semaine sur l'autre quand rien n'a changé. C'est compliqué aussi parce qu'il y a quand même des choses qui font l'actualité, dont ils font parler. Mais donc, j'essaye de trouver un petit peu cet équilibre. Mais c'est important à garder à l'esprit, là aussi. Donc, merci pour ta remarque. Et j'essaierai, et j'essaye toujours plus, d'avoir une certaine variété dans les sujets. Comme par exemple, aujourd'hui, on a parlé de Solid. Ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas une société qui vient d'arriver. Bon, il y a eu l'actualité avec Bruce Schneier, mais c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai mis ce sujet dans les sujets de l'émission aujourd'hui. C'était justement parce que c'était un sujet intéressant dont on n'avait pas parlé spécifiquement avant, qui est lié à la question de la vie privée, qui est bien sûr importante ces dernières années, mais qui n'est pas directement un sujet qu'on a couvert en parlant des problèmes éternels. Donc j'essaye, et il faut que je fasse encore mieux là-dessus. Je s'utilise avec modération. Quand des personnes qui ne te connaissent pas écoutent tes podcasts, il arrive qu'ils aient l'impression que tu as un ego surdimensionné, avec un gros smiley. Bref, peu importe, merci. Non, peu importe, c'est intéressant comme remarque aussi. Il y a une raison pour laquelle je dis « je » souvent, c'est parce que je dis « je pense que » ou « à mon avis ». Parce que j'essaye toujours. Alors, bon, il y a deux choses. D'une part, je fais toujours des grandes présentations. Et c'est, ça peut donner l'impression que je parle beaucoup, mais c'est parce que je veux... Dans l'émission, je sers deux publics. J'essaye de couvrir deux publics, enfin, et toutes les nuances entre les deux. Les débutants, qui ne connaissent pas bien la tech et qui ont donc besoin qu'on explique à des niveaux relativement fondamentaux les concepts dont on parle, ça c'est important. Et d'autre part, il y a les gens qui s'y connaissent un petit peu plus et qui connaissent plus ou moins les informations, qui ont peut-être besoin de précision, mais qui ont surtout besoin d'analyse pour comprendre exactement ce que veulent dire ces informations. Et donc, c'est vrai que je fais des longs laïus au début de chaque sujet. Je prends beaucoup de place dans l'émission, mais de mon expérience, c'est vraiment le moyen d'avoir, de s'assurer que ce gamut soit couvert. Après, on discute et on a souvent d'ailleurs des remarques qui vont me faire bouger un petit peu, me faire changer d'avis ou éclairer les choses de manière différente. C'est pour ça que je tiens à avoir des gens qui sont des experts de la tech avec moi et qui changent tout le temps pour avoir des avis différents. Mais cette première partie est très importante aussi. Donc, j'espère que c'est pour ça que je dis « je » et pas juste que je parle de moi tout le temps. Il y a ça d'une part et le fait que je dis « je pense que » à mon avis parce qu'il y a très peu de vérité absolue dans tous les domaines du monde et c'est le cas dans la tech aussi. Et bon, il y en a peut-être de temps en temps quelques-unes et j'essaye de mettre le point dessus quand je pense que c'est le cas. Mais sinon, c'est vraiment pour qualifier ce que je dis en disant « c'est mon avis à moi et c'est comme ça que je vois les choses ». C'est une chose qui est à mon avis importante et c'est peut-être pour ça que je dis beaucoup « je ». Donc, je ne sais pas si c'est ça qui pose problème, mais c'est comme ça que je vois la chose, donc que je vois la chose. Donc, si tu as une explication plus longue, n'hésite pas à venir le dire dans les commentaires ou sur Twitter ou là où tu veux. Je suis preneur d'explications, évidemment. Dans les bonus qui seraient intéressants pour devenir patriote, la personne a dit « j'ai voté pour c'est de ça qu'elle parlait dans les remarques à la fin, mais j'ai voté pour l'effet son parce que l'avocat du diable, ça m'a fait vraiment rigoler. » Donc, envoyer des effets son pour dire, par exemple, l'avocat du diable, comme bonus Patreon, le petit jingle, ça m'a fait vraiment rigoler quand j'ai écouté l'épisode dans lequel tu dis ça. C'est l'avocat du diable, des trucs comme ça. Tes émissions sont vraiment géniales, Patrick. Je suis mexicain et tes épisodes m'ont beaucoup aidé à apprendre le français. Et puis, je suis resté parce que je passe un bon moment en écoutant tes podcasts. Merci à toi. Bah, y a des gens qui nous écoutent du monde entier. Et comme la remarque que je faisais sur l'anglais, qui permet, enfin, ma diction et ma prononciation, bah, vous êtes déjà familier avec ça et donc peut-être que les émissions anglophones vous aideraient à apprendre l'anglais. Et pareil avec sur Twitter, c'est des termes dont on comprend parce que je parle beaucoup de tech et de jeux vidéo. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Il y a des gens qui écoutent et qui sont anglophones et qui écoutent les émissions. Tu fais partie de la famille. Oh, merci. On conclut. Tu fais partie de la famille. Ça m'a fait très plaisir. Maintenant que j'ai vu les photos, je regrette un peu d'avoir participé au sondage. Donc, mon but a été atteint. Les photos étaient particulières. Et enfin, oui, en conclusion, je ne les ai pas notées chacune, mais il y a eu tellement d'amour et de merci et de sentiments positifs. Comme je le disais au début de cette petite explication, ça m'a fait hyper, hyper plaisir. Ça m'a vraiment touché, tous ces mots et tous ces commentaires. Donc, un grand merci à vous en retour. Je suis content que l'émission vous plaise. Je suis content de pouvoir la faire grâce à vous, grâce notamment à ceux qui soutiennent l'émission. Mais c'est effectivement, les choix que j'ai faits étaient particuliers, pas toujours faciles. Et je continue à faire des choix qui sont parfois pas faciles. Mais je crois que les choses se passent plutôt bien pour le moment. J'espère qu'elles vont continuer à bien se passer. Et si c'est le cas, c'est grâce à vous. Donc, un immense merci. Et je vais m'arrêter là dans l'émotion. Je vous envoie plein de bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Non, je vais partir en vacances. Donc, dans deux semaines, j'espère, si je ne suis pas quarantinisé dans un aéroport au Japon. Je vous retrouve donc dans deux semaines. Et je vous envoie plein de bises d'ici là. Ciao, ciao.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.